Ô Dieu, nous savons que nous sommes sous ton regard de Père tellement merveilleux, un Père éternel, un Père qu'on ne peut pas perdre, un Père juste, comme le disait ton Fils unique, ton bien-aimé. Un Père saint, comme il l'affirmait également quand il s'adressait à toi. Il pouvait dire Père juste, Père saint, et il voudrait que nous aussi, nous puissions dire que notre Père des cieux est juste, en toutes ses voies qu'il est saint, en toutes choses. Puisque les séraphins dans le ciel se couvrent la face de leurs ailes lorsqu'ils se tiennent devant toi en disant « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ils s'exhortent à la sainteté dans le ciel. Eux, les séraphins, ces êtres si purs. Et nous voudrions que sur la terre, nous puissions être à ta disposition, Père des lumières, Père des miséricordes, Père de toutes les grâces. Oui, nous voudrions être à ta disposition, pour que tu puisses te servir de nous et que nous ayons un vrai service pour toi, parce que ce n'est pas nous qui l'accomplissons, mais toi en nous. Notre Dieu, nous voulons te demander que cette journée se termine par une manifestation éclatante de ton amour dans nos cœurs. Cet amour versé par le Saint-Esprit et qui répondra à ton amour. Nous voudrions pouvoir tous partir de cette salle, retourner dans nos tentes ou dans nos maisons, dans nos demeures, comme cette femme qui a osé venir te trouver, qui était consciente de ses péchés, qui pleurait sur tes pieds, ô Seigneur Jésus. Nous aussi, nous voudrions baiser tes pieds comme signe de notre soumission totale à notre Sauveur, devenu notre Seigneur. Et nous voulons te bénir, parce que tu as dit à cette femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés. Elle n'avait plus à s'occuper de sa vie passée, c'était terminé. Va, ta foi t'a sauvée. Ô Seigneur, Seigneur Jésus, qu'il y ait dans plusieurs cœurs ce soir cette certitude divine d'un salut complet, d'un salut parfait, d'un salut qui est Jésus, en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous connaissez le thème de notre camp cette année, fiancé au Christ, et nous arrivons bientôt à la fin de ces journées où nous nous sommes penchés sur ce que disait l'Écriture au sujet des fiançailles, au sujet d'un fiancé ou d'une fiancée, et nous avons cité le texte qui nous a donné le thème et qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, où l'apôtre Paul, écrivant aux croyants de Corinthe qui s'étaient donnés au Seigneur, il leur disait: je vous ai fiancé au Christ. Mais ce que Paul craignait maintenant, c'est que sous l'influence de faux docteurs, ils aient devant leurs yeux un autre Jésus que celui que Paul leur avait prêché. Qu'il soit animé d'un autre esprit que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, et puis qu'au fond, ils aient un autre évangile, et qu'ils aient cédé ainsi à la ruse de Satan, comme l'avait fait autrefois Ève au jardin d'Éden. Alors Paul les avertissait. Et ce que nous avons souligné, c'est que nous sommes dans un temps, justement, où l'on voudrait, à cause des circonstances et de l'évolution de ces dernières années, qu'on adapte l'évangile aux circonstances. Alors, plus de fiançailles, mais la cohabitation, pour ne pas dire le concubinage, puisque c'est un mot qu'on n'aime pas tellement. Et c'est le reniement, comme nous l'avons vu hier soir, des vérités essentielles du christianisme. Et cela prépare, sans aucun doute, le jugement de Dieu. La colère de Dieu va se manifester du ciel contre toute impiété. Nous avons fait remarquer que les fiançailles, selon l'Écriture, c'était ce temps béni que Dieu accordait à deux êtres qui s'était rencontré en lui et qui s'était promis une fidélité totale en vue de ce jour unique et béni de leur mariage, où ils habiteraient ensemble et où alors, après avoir pu maîtriser leur passion, ils pourraient se donner l'un à l'autre. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit que le vrai mariage, c'était pas un mariage à deux, mais un mariage à trois. Et c'est ce que vous avez dans le livre de l'Ecclésiaste: la corde triple ne se rompt pas facilement. Si vous n'êtes qu'une corde double dans le couple et que l'un vient à décéder, alors vous restez assez solitaire. Mais si vous vous êtes marié dans le Seigneur, avec l'approbation du Seigneur et en obéissant à la parole du Seigneur, vous ne serez pas seul, même si vous perdez votre conjoint. Parce que le Seigneur reste avec vous. C'est lui qui vous liait l'un à l'autre, et vous ne serez pas seul. Nous avançons maintenant vers ce jour du mariage, de l'union totale qui aura lieu avec le Seigneur à son retour. Nous avons dans l'Écriture cette perspective des noces de l'agneau. Et le temps que nous avons depuis notre conversion jusqu'à ces noces, c'est un temps de préparation pour que lorsque ces noces seront célébrées, nous soyons alors absolument semblables au Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Et si je devais résumer ce que nous avons dit ce matin au sujet de ce thème, ce que nous devons croire, c'est que ce qui est vrai du Christ, notre fiancé, est vrai aussi de chacun des croyants. Ce que nous avons découvert du Fils unique de Dieu, vous devez croire que cela est vrai de chacun de vous. Vous ne devez plus regarder à vous-même, à vos expériences passées, qui sont peut-être très décevantes. Ne pensez plus à ces expériences passées. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à cette femme au sujet de son passé. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Si vous êtes allé à Jésus, c'est quelque chose de définitif. Et ce qu'a été Jésus sur la terre, c'est ce que vous êtes maintenant déjà devant Dieu. Et voyez-vous, ce qui compte, c'est pas ce que vous êtes maintenant quand vous vous livrez à de l'introspection, parce que vous êtes découragé, vous avez la nausée de vous-même, mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne cette nausée, pour que vous ne puissiez plus vous supporter et que vous disiez, oh Seigneur, comme c'est bon de t'avoir maintenant toi pour ma vie et de pouvoir dire tu es ma vie. Est-ce que vous pouvez le dire ce soir? Non pas parce que vous avez fait de grandes expériences, mais c'est parce que c'est la parole qui vous le dit. La vie éternelle que nous avons vue dans la Genèse, elle est dans le Fils. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Et quelle est cette vie? C'est la vie même du Fils. Mais est-ce que vous le croyez, ça? C'est ça que vous devez croire. Lui, s'il est mort, c'est parce qu'il avait pris votre vie. Alors finissez-en avec votre vie. Elle est dans la mort de Jésus. Elle est dans la mort de Jésus. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort avec votre vie. Et votre vie contient tout votre passé, tout votre présent, tout l'avenir terrestre que vous pouvez encore avoir. Tout cela, nous ne sommes plus de la terre. Nous sommes du ciel. Et nous devons éprouver que notre avenir, c'est pas sur la terre que nous le passerons, c'est dans la gloire. Il nous a donné la grâce, et puis après la grâce, qu'est-ce qui vient? La gloire. Psaume 84. Il donne la grâce et la foi. Si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et voyez-vous, la grâce, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui est rendu visible. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez manifester sa grâce dans le monde. C'est cela la vraie évangélisation. Ce n'est pas un effort périodique ou occasionnel où l'on vous demande beaucoup et beaucoup d'argent, mais c'est votre témoignage quotidien que vous vivez de la grâce de Dieu et que de la plénitude de Jésus vous recevez grâce sur grâce, moment après moment, heure après heure, dans toutes les circonstances, la grâce a été vue. Il est dit que Barnabas, quand il est allé à Antioche, la ville où pour la première fois on a nommé les disciples du Christ des chrétiens, les a nommés chrétiens par les païens ont nommé les disciples du Christ chrétiens. Quand Barnabas s'est trouvé à Antioche, il est dit, il vit la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu dans cette église. Il l'a vu dans chaque âme. Et voyez-vous, c'est cela que le monde voudrait voir. La grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est la personne de Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et puis, il est ajouté que personne ne vit jamais Dieu, mais que le Fils unique, celui qui nous occupe, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître, lui nous l'a révélé. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. De sorte que nous devrions surabonder journellement en action de grâce, dans ce temps si difficile où vous n'entendez que des plaintes, que des gémissements, des gens découragés qui ont besoin du psychiatre, du psychologue et toutes sortes de choses. Alors que en Jésus, nous avons vraiment tout, mais Jésus, on l'a abandonné. On a fait du salut une espèce de propagande spirituelle, puis maintenant, voilà, on est sauvé. On est sauvé pour ne pas aller en enfer. On est sauvé pour mourir en paix. Non, chers amis. On est sauvé pour vivre en 1995. Comme des authentiques chrétiens. Et un authentique chrétien, c'est un homme qui ne vit plus lui-même ou pour lui-même, mais qui vit pour celui qu'il a aimé et qui est mort pour lui. Et c'est ce que nous voulions que tous puissent comprendre, que la conversion correspond aux fiançailles. La conversion d'une âme à Jésus correspond aux fiançailles. On a dit oui au Seigneur, et c'est un oui définitif qui nous permet, parce qu'on connaît à qui on a donné sa vie, qui nous permet de dire non au monde et à toutes ses convoitises, et non à Satan, et qui nous permet de discerner les ruses du diable et de pouvoir lui résister. Le verset que je vais vous laisser, parce que nous n'allongerons pas ce soir, se trouve dans la première épître à Timothée, et il vient à la suite de tout ce que nous avons découvert au sujet de notre fiancé, nous l'avons vu dans l'éternité passée, nous l'avons vu donc dans le sein du Père, et nous avons compris que c'était là qu'était l'amour. Dieu est amour, c'est un Père au cœur de mère, et avant la création du monde, le Père aimait son Fils. L'amour du Père, c'était son Fils unique. C'est là que se trouve l'amour, avant la création du monde. Et dans le sein du Père, c'est là que s'est préparée la création de toutes choses, et aussi le plan rédempteur, au cas où l'homme prenait le mauvais chemin, puisque Dieu était si ambitieux pour l'homme qu'il voulait le laisser choisir le vrai chemin. Si l'homme employait mal sa liberté, nous vous l'avons souligné, Dieu avait déjà prévu un moyen pour le racheter et arriver à ce que son plan soit réellement accompli. Vous êtes prédestinés dès le sein du Père à la gloire éternelle. Nous n'avons pas été prédestinés à la souffrance, nous n'avons pas été prédestinés à la mort. C'est le péché qui a introduit toutes ces choses. Mais au cas où l'homme prenait ce chemin de la connaissance du bien et du mal, arrivant à savoir ce que c'est que le bien, mais découvrant que séparé de Dieu, il n'était pas capable d'accomplir le bien, mais qu'il était très capable alors d'accomplir le mal, de faire le mal. Mais Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans cet état, et dans un plein accord avec son Fils bien-aimé, préconnu dès avant la fondation du monde comme l'agneau de Dieu qui serait manifesté au temps propre, eh bien mes amis, nous avons vu ce qui s'est passé au temps convenable. Ce Fils éternel nous a été donné par le Père, selon la parole même de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors il est venu. Et pour nous, ça reste un mystère. Et je lis ce verset qui doit s'imposer à votre cœur. Verset 16 du chapitre 3 de la première à Timothée. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. La piété, je voulais souligner, c'est la relation qu'un homme peut avoir avec Dieu lui-même. Comment se peut-il qu'un homme comme nous, nous puissions être en relation avec Dieu? C'est un grand mystère. Mais c'est un mystère de piété. Et ce que contient ce mystère, je n'ai pas à vouloir comprendre, mais j'ai qu'à croire. N'essayez pas de comprendre. Un mystère reste un mystère. Mais ce qui était mystère dans l'Ancien Testament, la plupart de ces mystères ont été révélés. Jésus n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Il était annoncé comme devant être Emmanuel, mais il n'était pas révélé encore. Ce mystère a été révélé par la naissance de cet homme qu'on a appelé Jésus. Mais alors, qui était cet homme? Qui était-il? J'ai essayé de vous le montrer dans l'Ancien Testament, dans l'éternité, c'était le Fils unique, le Fils éternel de Dieu. Il était Dieu lui-même, comme nous l'avons souligné dans le prologue de Saint Jean. Il était auprès de Dieu, il était Dieu, il était avec Dieu. Mystère de la Trinité, mystère de la piété. Alors, regardons les éléments de ce mystère. Celui qui a été manifesté en chair, il était Dieu. Jean 1. Notre fiancé, c'est Dieu. Le Fils unique, il était Dieu. Le Tout-Puissant. Et nous avons vu que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce que vous voyez, c'est le Fils unique qui en est l'auteur avant son incarnation. Le Tout-Puissant. Et nous avons vu que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce que vous voyez, c'est le Fils unique qui en est l'auteur avant son incarnation. Alors, vous comprenez, quand il parlait des oiseaux du ciel, quand il parlait des lys des champs, tous ces exemples, il les prenait dans sa création qu'il avait faite lui-même. Ce sont des choses qu'il avait faites. Alors, il les connaissait bien. Mais si vous ne croyez pas que Jésus était Dieu, vous me direz comme ce pasteur, lorsque j'avais 20 ans, on s'était rencontrés parce que il disait que ma foi était un péché. Et qu'est-ce que c'était ma foi? C'est que je croyais que Jésus était le Fils éternel de Dieu. Lui n'y croyait pas. Alors je lui avais demandé, mais à Noël, qu'est-ce que vous dites? Oh, j'essaye de passer très rapidement sur la naissance de Jésus. Mais il me dit, mais Jésus, c'était le fils de Joseph. On ne peut pas croire à une conception du Saint-Esprit, mais c'est vieux ça. Puis il a osé me dire, vous ne voulez quand même pas me dire que Jésus savait tout ce que moi je sais au point de vue de la botanique et de l'histoire naturelle, parce que j'ai une licence, j'ai un diplôme en histoire naturelle. Alors il en savait plus que Jésus. Donc il ne croyait pas. Mais cet homme pourtant s'est converti finalement. Alors ça vaut la peine. Il faut quand même les aimer. Mais c'est triste de penser qu'on peut être pasteur et puis ne pas croire à la divinité essentielle du Fils de Dieu. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Dans l'éternité, le Fils était là, dans le sein du Père. Mais alors, tout à coup, qu'est-ce que nous apprenons en voyant Jésus sur la terre? On voit un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il n'y a rien de plus faible qu'un petit enfant qui vient de naître. Et on nous dit que c'est Dieu, ça. C'est là qu'il faut la foi. Qui est-ce qui avait créé les anges? Selon l'Écriture, nous l'avons lu. J'ai fait exprès de te parler pour laisser surtout la parole parler. Qui a créé les anges? C'est Dieu. C'est le Fils unique. Le Fils unique a créé les anges. Puis maintenant, les anges qu'il a créés le voient petit enfant. Vous rendez-vous compte? Les anges eux-mêmes le voient petit enfant parce qu'on a vu qu'à la naissance de Jésus, les anges étaient là pour témoigner qu'il était vraiment Dieu. Le commencement de Jésus n'était pas à la crèche. Son commencement en tant qu'homme était à la crèche. Mais il n'a pas commencé son existence à la crèche. C'est cela que vous devez croire. Sans ça, vous n'êtes pas chrétien. Et vous êtes sur le chemin de la perdition. Et vous ne pouvez pas amener des âmes vraiment au Seigneur. Si vous ne croyez pas ce que Jésus a dit être, celui qui a dit avant qu'Abraham fût, je suis, si vous ne croyez pas, vous êtes étranger à la vie de Dieu, vous êtes étranger au christianisme, malgré votre baptême et tout ce que vous voulez. Et alors, je ne peux pas croire que vous êtes un bienheureux. Je ne peux pas croire que vous êtes vraiment heureux. Parce qu'on est vraiment heureux quand on croit ce que Jésus est. Parce que quand on croit ce que Jésus est, on sait où l'on va. Et l'on sait que, puisqu'il est le Fils de Dieu, nous allons avoir un secours divin dans notre vie quotidienne. Et c'est tous les jours que vous devez connaître ce secours divin. Dieu s'occupe de vos affaires. Et ne pensez pas que vous ne devez pas le déranger, que Dieu est trop grand pour qu'il vous conseille même quel genre de robe acheter. Voyez-vous, quand on vit avec le Seigneur, on le fait entrer dans toutes nos affaires matérielles. Il n'y a pas une chose qui ne l'intéresse pas. Et voyez-vous, avec le Seigneur, vous serez toujours à la mode. Les modes passent, se succèdent. On n'a pas besoin de suivre ce que fait le monde. Nous sommes au Seigneur, et nous nous disons, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que je te plais avec ça? Si ça plaît au Seigneur, vous pouvez être sûr que ça plaira aussi au mari. Puis si ça ne lui plaît pas tout de suite, il s'habituera. Mais restez fidèles à votre Seigneur. Alors le voilà dans la crèche. Mais est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Parce qu'on n'a pas eu de place pour lui. Le monde n'a pas eu de place pour lui. Et pourtant, en Israël, on l'attendait, soi-disant, on l'attendait. Celui qui avait été promis au jardin d'Éden, qui écraserait la tête du serpent. Mais on s'était fait toutes sortes d'idées sur lui. Et on voulait un Messie national, politique. Les Juifs voulaient cela et pensaient que celui qui leur serait donné les délivrerait du joug des Romains. Puis c'est pas ce qu'il a fait. Et alors, vous savez, c'est quelque chose de terrible. Il naît dans une crèche, mais évidemment, il y a les anges qui le célèbrent. Mais un beau jour, Joseph, qui n'avait pas connu sa fiancée, mais qui avait cru ce que Dieu lui avait révélé, réveille Marie, et lui dit, Marie, réveille-toi. Alors elle se réveille. Il nous faut partir tout de suite en Égypte. Il nous faut partir tout de suite. Parce qu'on va tuer l'enfant. On va tuer l'enfant. Vous rendez-vous compte que ça a dû être? L'enfant vient de naître, et puis, parce que les mages sont retournés sans passer vers Hérode,
Eh bien, lui, il fait massacrer tous les enfants de Bethléem en pensant qu'il va atteindre Jésus, ce Jésus qu'on a dit être le roi. Et voilà Marie qui se lève et qui dit, mais où irons-nous? L'ange m'a dit qu'on s'est reçu en Égypte. C'est beau ça. Et Marie a suivi Joseph. Elles sont parties. Mais ils étaient à peine loin que déjà les troupes arrivaient et massacraient les enfants de Bethléem. Selon une vieille prophétie dans Jérémie, on entend les pleurs de Rachel. Elle pleure ses enfants. Et c'est pourquoi, mes amis, l'Égypte sera bénie un jour. C'est mis aussi dans l'Écriture. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont reçu Jésus. L'Égypte sera bénie avec Israël. Mais est-ce que vraiment c'est le Fils de Dieu, un fugitif? On l'emmène, petit enfant, en Égypte. Puis celui qui voulait le faire mourir, c'est lui qui est mort. Alors, nouvelle révélation, on revient. Mais on se fixe à Nazareth, une ville méprisée. Et vous savez, les Juifs savaient que Jésus devait naître à Bethléem. Mais au bout de 30 ans, quand il a commencé son ministère, qui se souvenait de cela? Peut-être que les bergers étaient morts. Joseph était mort aussi. Marie savait bien qu'il était né à Bethléem. Mais pour tout le monde, c'était Jésus de Nazareth. Alors ça ne correspondait pas avec l'Écriture. C'est pas de Nazareth que le Messie doit venir. C'est d'où? De Bethléem. Mais on oublie cela. Alors ça devenait encore une difficulté. Et puis quand on voit ce Jésus qui n'a pas fait les études dans les grandes écoles, mais qui connaît les Écritures, et qui déjà à l'âge de 12 ans à Jérusalem a étonné les docteurs de la loi par ses réponses, mais quand il arrive auprès de Jean-Baptiste, alors c'est profondément troublant. Il demande à Jean-Baptiste de le baptiser, comme s'il était un pécheur comme tous les autres. Alors vous comprenez la réaction de Jean-Baptiste, mais ça ne convient pas, Seigneur. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Puis Jésus dit, laisse faire. Il est convenable d'accomplir toute justice. Et Jésus, conçu du Saint-Esprit, le saint enfant né de la Vierge Marie, le voilà qui entre dans les eaux du Jourdain, comme s'il était un pécheur. Mais pourquoi était-il venu? Il était venu pour prendre les péchés des hommes. Tous ces gens qui confessaient leurs péchés dans le Jourdain, eh bien Jésus y entre parce qu'il va se charger de tous les péchés du monde. Il va les prendre sur lui et les expier parce que le sang des taureaux, des agneaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Mais alors on se dit, mais comment est-ce que le monde, il ne va pas reconnaître Jésus, il ne va pas reconnaître que c'est le Messie. Et alors tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il est en prière, le ciel s'ouvre. Puis qu'est-ce qu'on voit descendre? Le Saint-Esprit sous une forme corporelle, comme une colombe, qui se pose sur Jésus. Et puis, tout à coup, on entend la voix du Père, cette voix qui avait parlé au Sinaï, qui avait donné les 10 commandements, et qui dit, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, c'est le Fils unique. Et là, vous avez un témoignage de la Trinité, Dieu, un Dieu unique, mais manifesté en 3 personnes. Alors, il commence son ministère, mais alors on est de nouveau bouleversé, parce que, où le Saint-Esprit le conduit-il? au désert. Et alors au désert, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui, après 40 jours, a faim. Jésus a faim. Lui qui a créé toutes choses. Et à ce moment-là, Satan, l'ennemi de Dieu, pas un autre Dieu, mais une créature de Dieu qui s'est révoltée contre Dieu et qui voudrait empêcher Dieu de réaliser son plan béni pour l'homme. Et Satan vient pour essayer de détourner Jésus de sa vocation. Et il lui dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu. Et vous savez, quand on est fatigué, Jésus avait un corps de chair, sans péché, mais c'était la chair quand même limitée. Il était à l'étroit dans cette chair. Il l'a dit lui-même. Alors, que va-t-il faire? Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Oui, mais Jésus n'a jamais employé sa puissance pour lui-même. C'est toujours pour les autres. Il n'a jamais employé sa puissance pour lui-même. Et c'est pourquoi il a souffert toute sa vie. Il a été l'homme de douleur. Mais dans la tentation, il a triomphé. De la première, de la seconde, quand Satan, après avoir été vaincu à la première tentation, il le mène sur une haute montagne, puis lui monte tout le monde. Et il lui dit, voilà, si tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, eh bien, je te donnerai tout cela. Et vous savez, ils sont nombreux les hommes qui ont cédé. Je pense à Napoléon, je pense à Hitler, je pense au César d'abord, qui ont cru qu'ils pourraient régner sur le monde. Jésus n'est pas venu pour régner sur un monde irrégénéré. Il est venu pour sauver le monde. Et il ne veut pas être le roi d'un monde dont les cœurs ne lui appartiennent pas. Il veut des cœurs pour lui. Alors il a une œuvre à accomplir. Il ne va pas régner. Et il refuse d'être roi quand, à cause de sa popularité, de ses miracles, on voudrait le faire roi. Il se cache, il refuse. Puis le diable le conduit au sommet du temple, alors qu'il y a la fête à Jérusalem, et puis il lui dit, bien, si tu es le Fils de Dieu, saute. Parce que le diable connaît la parole, puis il lui cite la parole. Il lui dit, il est dit à ton sujet que Dieu te préservera, il commandera à ses anges, afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. Et Jésus lui dit, oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et alors le diable le laisse, attendant une occasion favorable. Mais voilà, Jésus a été tenté en toutes choses. Mais il nous a montré comment on peut vaincre les tentations. Et je puis en témoigner, c'est uniquement par la parole de Dieu. Tenez-vous à la parole de Dieu. Tant que vous tenez à la parole de Dieu et que vous résistez au diable en disant, ben voilà, voilà ce qu'il est écrit, vous serez gardés. Et vous ne tomberez pas. C'est plus nécessaire de tomber toujours. Il y a une puissance de délivrance, mais où trouvons-nous la force? Dans la parole. Jésus n'a pas employé un autre moyen que la parole. Et c'était le Deutéronome qu'il citait. Enfin, vous avez Gethsémané, nous l'avons mentionné, ou alors tout à coup vous voyez Jésus comme effondré sur ce rocher de Gethsémané, où il dit, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas ta volonté, non pas ma volonté mais la tienne. Et il prie trois fois. quand il a pu dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et voyez-vous, le secret de votre vie, c'est quand vous direz au Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors c'est la délivrance. Et une délivrance absolument merveilleuse. Mais il faut céder. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et quand je peux dire, ben Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas où je vais. Lui, il savait où il allait. Il allait à la croix. Mais il a reçu la force de traverser tout cela. Et il est allé à la croix. En vainqueur. Il a tout surmonté. Et tant de conditions divines, il a été trouvé ici-bas en figure comme un homme. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix. Et là, comme le salaire du péché c'était la mort, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il ait sur Jésus pour qu'il meure? Le péché. Nos péchés, mais pas les siens, il n'en avait pas. Mais il a pris vraiment tous nos péchés. Et si Jésus est mort, c'est à cause de nos péchés. Alors, est-ce qu'ils sont encore sur nous? C'est tellement merveilleux. Je me souviens toujours de cette femme de 92 ans qui avait reçu l'extrême onction. C'était au Valais en Suisse. Elle avait peur de mourir quand le prêtre est parti. Moi, je n'avais que 17 ans. Puis une amie qui la connaissait m'a demandé d'aller la voir parce que cette femme avait dit, qui est ce jeune homme qui est avec vous, qui vient vous voir? Puis elle a dit, ben, c'est un garçon qui est très malade et qui probablement pourrait mourir. Alors elle dit, il pourrait mourir? Est-ce qu'il a peur de mourir? Non, il n'a pas peur de mourir. Eh bien, alors je voudrais qu'il vienne me parler. Alors elle avait réuni toutes les vieilles femmes du village. Elle était catholique, bien sûr. Puis toutes ces vieilles dames-là, qui allaient aussi mourir, étaient là. Puis alors elle m'a demandé pourquoi j'avais pas peur de mourir. Et puis j'ai pu lui expliquer. Le salut avec Ésaïe 53, qui était le chapitre de ma conversion. Et c'était quelque chose de merveilleux de voir tout à coup, dans ses yeux, elle avait saisi les péchés qui étaient sur vous. Le Seigneur les a pris et les a mis sur Jésus. Dieu les a mis sur Jésus. Est-ce qu'ils sont encore sur vous? Vous savez, c'est difficile hein, de réaliser ça. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai mis ma Bible sur elle. J'ai dit, où est ma Bible? Elle est sur moi. Je la prends, elle est jamais ici. Où est-elle? Elle est sur vous. T'as compris? Alors, de la même manière, eh bien, vos péchés ne sont plus sur vous. C'est Dieu qui vous le dit. Parce qu'il y avait un crucifix. Et vous savez, moi j'étais navré quand on va à Châteauguay, il y avait des personnes dites évangéliques qui auraient voulu arracher les crucifix qui étaient dans les champs. J'ai jamais vu ces gens, quand ils vont dans un motel, arracher un poster de femmes nues. Ils les laissent, ils les regardent. Mais un crucifix, ah non, non. Il fallait l'enlever. Que l'on peut être idiot, imbécile. Mais ce sont des victimes d'un certain enseignement. On fait des anticatholiques au lieu de faire des chrétiens, des croyants. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Et nous voulons avoir un témoignage partout. Eh bien, il y avait ce crucifix, j'ai dit, madame, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est Jésus sur la croix. Mais pourquoi est-ce qu'il est sur la croix? Il dit, à cause de nos péchés. Et j'ai dit, mais justement, il les a expiés. Vous voyez, on sait plus ou moins ces choses, mais ce n'était pas entré. Et voyez-vous, quand on entend un jeune homme qui nous donne toutes sortes de réponses, ça ne me rassure pas. Parce que vous pouvez savoir toutes ces vérités. Moi aussi, je les ai connues par cœur, ces vérités. J'avais que 6-7 ans, je savais ces choses par cœur.
On me demandait, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Ben oui, tout ça. Mais ce n'était pas réel. Alors, mes amis, il faut que tout cela devienne réel. Je sais que je suis un pécheur, comme cette femme, elle savait qu'elle était pécheresse, et elle est venue au pied du Seigneur. Et ses péchés lui ont été pardonnés, elle a pu partir en étant sauvée. Eh bien, c'est ce que je désire. Et alors, vos fiançailles seront de vraies fiançailles avec le Seigneur. Un jour de joie pour le Seigneur. Et chaque jour qui passe, vous apprendrez à le connaître. Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus est ressuscité. Et vous ayant pris avec lui dans sa mort, il vous a entraîné avec lui dans sa résurrection. Et ce qu'on appelle le vieil homme, votre ancienne nature, est restée dans le tombeau. Alors n'allez pas le déterrer. Vivez avec l'homme nouveau qui est en vous. Et vous serez bénis et vous avancerez vers ce moment heureux des noces de l'agneau. Dieu a été manifesté en chair, oui. La parole est devenue chair. Il a été justifié en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce qu'on sait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et non pas un grand martyr mort sur la croix? Il est mort sur la croix, mais est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Non, il est ressuscité. Et c'est ça la justification. Il a été ressuscité, justifié en esprit. Nous savons que Jésus est ressuscité, car s'il n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. Il a été justifié en esprit, il a été vu des anges, c'est vrai, il a été vu où? À la crèche, il a été vu dans le désert, à la tentation, par les anges qui l'ont servi. Il a été soutenu par un ange à Gethsémané et puis à la résurrection, les anges étaient là. Il a été prêché parmi les nations, c'est vrai, mais cet évangile qui était prêché par les nations, on l'abandonne de plus en plus, ou on voudrait le transformer. Il a été cru au monde. Est-ce que vous croyez? Et il a été élevé dans la gloire. Il est retourné dans la gloire d'où il était venu. Est-ce que nous l'avons? Ce que nous savons, c'est qu'il reviendra. Dieu notre Père, en attendant ton retour, nous voulons te demander que tu nous familiarises avec ce mystère de la piété et que nous puissions adorer au lieu de vouloir comprendre. Que nous puissions te dire merci de ce que c'est vrai. Oh, permets qu'il y ait une âme qui n'attende pas plus longtemps, mais que ce 5 juillet soit pour cette âme le jour où, sans comprendre peut-être, il peut dire « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. » Et que tu lui donnes, que tu donnes à cette âme la paix que nul ne peut ôter pour ta seule gloire et notre bonheur. Amen.